Ils ont changé le monde. Les vêtements. Yvan Jacob.
Même s'il est féministe, ne l'ont en fait jamais brûlé, il a connu bien des aventures. Histoire d'un sous-vêtement qui a beaucoup à raconter, le soutien-gorge.
La femme à l'époque est un sapin de Noël, et plus elle est décorée, plus son mari est riche.
Voilà.
Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints.
Madame, je voudrais voir un soutien-gorge.
Ça n'est pas parce qu'elle l'invente que tout le monde l'adopte.
Est-ce que vous portez un soutien-gorge ?
Oh, ben oui, comme toutes les femmes.
Ça, c'est assez extraordinaire.
Faites-moi voir.
Peut-être.
Oui. Alors, voulez-vous avec armature ou sans ?
L'essentiel, c'est de pas le sentir.
Ce n'est pas exactement un vêtement, c'est un sous-vêtement. Un morceau de textile discret porté contre la peau qui échappe au regard du monde et pourtant. Malgré son caractère intime, le soutien-gorge est bien plus qu'un accessoire. C'est un objet social et politique, un vêtement qui accompagne et raconte peut-être plus que tout autre les mouvements de notre société. D'abord considéré comme un symbole de libération au moment de la chute du corset, il gomme ensuite les formes féminines selon les exigences des années folles, avant d'être adulé par les stars hollywoodiennes des années 50, puis jeté à la poubelle par les féministes de la seconde vague. Attribut de la femme-objet des années 90-2000, il a souffert des confinements et se réinvente aujourd'hui à l'aune des réflexions sur le body-positivisme, l'inclusion de toutes les formes de corps et des prises de conscience liées au mouvement MeToo. Aujourd'hui, nous parlons du soutien-gorge et de la façon dont il a changé le monde. Et pour dégrafer cette histoire du soutien-gorge, oui, j'ai fait ce jeu de mots, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Kemaïs Benlagdar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la mode, professeur à l'Institut français de la mode et auteur de L'appropriation culturelle, histoire, domination et création aux origines d'un pillage occidental, paru en 2024 chez Stock. Et Renaud Cambusa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la création du groupe Chantel, une référence de la lingerie française dont l'histoire remonte au 19e siècle, même si à l'époque, la petite entreprise ne fabrique pas encore de soutien-gorge, et pour cause, celui-ci n'existe pas encore.
L'essentiel, c'est de pas le sentir.
Au-delà du pratique, il faut qu'il ait un mystère. Quand il a un mystère, c'est... Oh, ça m'intéresse pas.
Le premier que vous avez rencontré ?
Ben, c'est celui de ma femme. Il n'y a que celui-là que je connais, c'est tout. T'as peur de quoi?
Moi je trouve que faut qu'il y ait un petit côté secret.
Vous le montrez de temps en temps?
Non, pas vous. Désolée. Au revoir.
Le secret, le mystère, c'est lui. Le soutien-gorge dont on célèbre cette année le centenaire. Inventé pour remplacer le corset, il est très vite devenu le symbole d'une certaine séduction hollywoodienne. Pourtant, à l'origine des scandales, des obsessions et autres sortilèges, une révolution bien française. Mais cette fois, les bonnets n'étaient pas phrygiens.
Ce fabuleux objet est la réplique du premier soutien-gorge qui a été créé en 1889 par mon arrière-arrière-grand-mère. Il est encore attaché au corset par le dos et était tout à fait révolutionnaire à l'époque. Parce qu'il soutenait la poitrine par les épaules, par des épaulettes, et libérait le plexus solaire. C'était une femme libérée, une grande amie de Louise Michel, et tout à fait féministe avant la lettre, très indépendante.
Cette fois, les bonnets n'étaient pas phrygiens, Kemaïs Benlagdar. Vous avez beaucoup travaillé sur cette période qu'on surnomme la Belle Époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le contexte de ce moment où sont inventés les tout premiers soutiens-gorge ? C'est un moment où les femmes aspirent à un vêtement plus pratique ?
Exactement. Un moment où les femmes aussi voudraient se libérer. Alors, je déteste ce mot, je déteste le terme d'émancipation, puisque, enfin, toute chose gardée, elles avaient peut-être un petit peu plus de mobilité, mais elles n'avaient toujours pas le droit de vote. Elles étaient toujours des éternelles adolescentes ou enfants. Enfin, je veux dire, voilà, donc...
Les mineurs, au sens de la loi.
Exactement. Je pense que c'est important de le noter aussi, parce que pour peut-être tout de suite évacuer l'idée que ça émancipe, un vêtement peut participer à une émancipation, mais c'est pas que ça, bien évidemment. Fin du 19e siècle, on est sur une nouvelle tendance, une nouvelle silhouette, une silhouette moderne qui serait différente de celle du 19e siècle. Tout ça, en fait, c'est très inspiré par les mouvements hygiénistes, la modernité, mais aussi la pratique du sport qui va se démocratiser de plus en plus. Et on va commencer à criminaliser un peu le corset, de dire que c'est une prison, un carcan, etc. Et donc, il y a certains couturiers à l'avant-garde, des femmes aussi, surtout des femmes, qui vont penser une redéfinition de cette silhouette sans le corset.
Ah, parce qu'il faut l'évoquer rapidement, on attribue généralement l'abandon du corset à Paul Poiret, mais il n'est pas du tout le seul, et il y a des femmes à ce moment-là dont on parle moins.
Le poncif veut que ce soit Paul Poiret qui ait banni le corset de la mode féminine, or... Quelques années auparavant, on a une couturière qui est très importante, très implantée à Paris, qui s'appelait Jeanne Margaine-Lacroix, qui, elle, propose une robe qui s'appelle sylphide et qui est apportée avec une gaine sylphide. Et elle était corsetière, elle était couturière. Elle fait un succès absolument phénoménal à l'exposition de 1900. Elle gagne une médaille d'or.
L'exposition universelle.
Universelle. Elle est présente dans toutes les colonnes des journaux de mode de l'époque. Poiret, pas tellement.
Ouais.
Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce que l'histoire a fini par... c'est rappelé de Poiret en oubliant complètement cette femme. Et puis, c'est assez drôle de... Enfin, évidemment que la remise en cause du corset ne pouvait pas venir... de la créativité d'un homme, que c'était une femme qui avait retiré le corset.
En fait, Kemaïs Ben Lagdar, Paul Poiret, a écrit ses mémoires et c'est grâce à ça qu'il a une postérité aussi.
Voilà, c'est ça. En habillant l'époque, en 1930.
Il se vante lui-même.
Exactement.
Et alors, à ce moment-là, il faut bien comprendre, pendant tout ce 19e siècle, toutes les femmes portent des corsets. C'est vraiment la pièce de lingerie obligatoire.
Effectivement. En fait, c'est le centre névralgique de la silhouette, quoi. C'est à partir de ça que s'organise une silhouette. Et on voit bien à quel point le corset est réintroduit au tout début du 19e siècle. Les fameux corsets à la Ninon, les corsets à la Divorcée. Ensuite, on va voir, en fait, arriver toute une série de dessous féminins qui vont créer des silhouettes extrêmement artificielles, ou par exemple sur le corset on va rajouter des amplificateurs de manches pendant la période romantique, enfin bon bref. Et c'est qu'une histoire en fait d'artificialité. À la fin du 19e siècle, j'ai l'impression qu'on veut plus tellement ça, qu'il y a une idée de remise en cause de cette tradition.
Vous le disiez, le corset a été beaucoup criminalisé, mais on a oublié que c'était quand même ce qui soutenait la poitrine, puisqu'il n'y avait pas autre chose.
Effectivement. Il a été criminalisé par les médecins hygiénistes et eugénistes aussi, dans un sens. Il a été criminalisé par les suffragettes aussi, et puis aussi par tout le mouvement de la réforme vestimentaire anglo-saxonne, etc. Puisque on voyait dans ce corset, la servilité de la femme, quoi, en quelque sorte.
Et vous en parliez, les expositions universelles, c'est là qu'on va présenter les nouveautés, les innovations en matière de lingerie. Et en 1889, l'exposition universelle de Paris, une certaine Herminie Cadol va proposer un nouveau soutien-gorge qui s'appelle le bien-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Elle est corsetière dans un atelier de corset. Elle est communarde aussi, c'est hyper important, donc assez féministe, très amie avec la grande Louise Michel, et elle pense en fait, elle va s'exiler aussi à un moment en Argentine, elle rentre en France avec cette invention qu'elle présente effectivement à l'expo de 89, c'est le moment où on va inaugurer la Tour Eiffel, enfin bon bref, il y a énormément de choses, et donc c'est l'idée de commencer à séparer en deux le corset. Et du coup, de laisser une poche pour la poitrine et le bas du corset qui est toujours là pour effectivement affiner la taille.
Pour gainer Et donc là, le corset descend sur la taille, et là, les seins se retrouvent à l'air libre.
Exactement.
Et il faut quelque chose pour les maintenir.
Exactement. Et donc, en fait, on peut un peu plus se plier, quoi.
C'est ça. Il y a plus de mobilité du buste.
Effectivement. Mais ça n'est pas parce qu'elle l'invente que tout le monde l'adopte.
Ça va mettre un peu plus de temps. J'ai juste envie, je ne peux pas vous résister à l'envie de vous lire un extrait d'un article de presse de 1882 qui cite un rapport de police sur Herminie Cadol, parce que vous l'avez dit, elle était communarde. Et l'article dit « La citoyenne Cadol a un mari, mais ce dernier est sans énergie à l'égard de sa femme, à telles enseignes que chez lui, il est obligé de laver lui-même la vaisselle et de faire la cuisine. »
Ah, ça c'est génial.
Ça donne une idée de ce qu'on pense des femmes qui ont une velléité émancipatrice.
C'est extraordinaire. Ça me fait penser à l'expression « porter la culotte ».
Bien sûr.
Lorsque les femmes se mettent à porter des jupes culottes et que du coup elles piquent le pantalon à leur mari. Et c'est un symbole de soumission, c'est exactement comme ça.
Alors Herminie Cadol fait breveter son invention en 1898, mais elle n'est pas seule à faire évoluer la lingerie. Hein. Comme toujours dans l'histoire de la mode, c'est pas une personne à une date précise, c'est ce qu'on se disait pour Paul Poiret. Il y a par exemple le Mamélia, proposé par un grand magasin, La Samaritaine. Alors ça s'appelle pas encore soutien-gorge à ce moment-là, mais l'offre commence timidement à se développer, Kemaïs Ben Lagdar.
Oui, on voit de plus en plus de grands magasins se saisir de ce genre d'innovation. En fait, les magasins de nouveautés qu'on appelle grands magasins aujourd'hui sont extrêmement à la pointe de l'innovation textile, de l'innovation vestimentaire. C'est des industriels qui flairent le filon, en gros, quoi. Et donc, oui, effectivement, on voit de plus en plus de ce genre d'objets arriver, je sais pas moi, à la Samaritaine, à la Belle Jardinière ou dans d'autres grands magasins. Mais quand même, le corset est toujours le plus important.
Alors, on trouve le mot soutien-gorge en 1900 dans une publicité dans le Petit Écho de la Mode. Pour un soutien-gorge à 7,90 francs franco de port, en tulle grec écru, il s'attache devant par des agrafes invisibles. Et la publicité dit « Toutes les dames et jeunes filles soucieuses de la beauté de leur taille voudront adopter ce supplément indispensable du corset. » Donc, il se porte encore avec
le corset. Avec le corset, oui.
C'est ça, on se ceinture la taille.
Effectivement.
Et le soutien-gorge vient en plus.
Parce qu'il serait absolument impensable, surtout en 1900, surtout avec cette fameuse ligne en S, d'avoir un corps mou.
Alors la ligne en S, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ?
Alors la ligne en S, c'est la ligne 1900, donc avec un corset qui écrase, disons, la poitrine et le ventre et qui projette dans un même temps le postérieur en arrière, quoi. Et donc, ça donne vraiment l'idée d'un S. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la ligne en S.
Et vous le disiez, Herminie Cadol, ça n'a pas rencontré un franc succès immédiatement, son soutien-gorge. C'est-à-dire qu'elle, elle y croyait, mais en fait...
Oui,
ça,
bien
c'est...
sûr. Bah, en fait... Retirer un truc que vous avez toujours porté et qui vous a toujours structuré et que vous pouvez pas faire autrement. Enfin, c'est absolument impossible du jour au lendemain de changer complètement une habitude de vie. Ça prend du temps. Effectivement.
Justement, la transition est longue et l'essor du soutien-gorge, ça va plutôt être dans les années 20.
Ouais.
Mais à ce moment-là, ça ressemble davantage à des brassières, Kemaïs Ben Lagdar.
Effectivement, ouais. Des brassières, en fait, qui sont là pour aplatir les seins. Parce que la mode des années 20 est plus aux robes tubulaires, aux robes qui vont cacher les formes et qui tombent droit. Et oui, c'est-à-dire que ça redevient quelque chose qui est là pour contraindre, dans un certain sens. Alors qu'en fait, Herminie Cadol, lorsqu'elle l'invente, c'était plus dans une velléité de libération.
Oui, et ça s'appelait le bien-être
voilà,
aussi
exactement.
Pour ça. Alors dans les années 20 et 30, la mode va dévoiler davantage du corps des femmes aussi. Hein. Vous parliez de cette silhouette très corsetée en S du début du siècle, mais ça évolue, les robes sont plus courtes, plus décolletées, dans le dos aussi. Et le soutien-gorge accompagne ce dévoilement.
Oui, effectivement. Et là, ce qui est assez intéressant avec ce soutien-gorge, c'est qu'il va commencer à se fixer un petit peu, enfin, tel qu'on le connaîtrait un peu aujourd'hui, j'entends, c'est-à-dire qu'un soutien-gorge qui n'est pas nécessairement là pour aplatir, mais qui peut accompagner aussi la forme, maintenir la poitrine. Et oui, vous voyez, en fait, on est déjà presque 30 ans après le brevet de Cadol, et ça commence progressivement à pénétrer les garde-robes des femmes, avec l'évolution évidemment de la silhouette qui est complètement différente des années 10, des années 20, globalement c'est une évolution qui est lente, qui est progressive et qui est surtout aussi directement, intrinsèquement liée aux évolutions des dessus.
C'est ça. Alors, le dessous va aussi s'adapter à la mode. Ça, c'est très important.
Forcément.
Alors, à partir des années 30, le soutien-gorge commence vraiment à ressembler au soutien-gorge que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. qu'il a des bonnets, des bretelles, c'est ça ?
Effectivement. Des armatures. Effectivement, oui.
Renaud Cambusa, est-ce que vous avez étudié toute cette histoire lorsque vous avez commencé à travailler dans le milieu de la lingerie ? Je rappelle que vous êtes chez Chantel, vous connaissiez pas ce milieu, vous avez un petit peu creusé toute cette histoire ?
Oui, alors sans doute pas autant en profondeur qu'Emmaïs, mais je m'y suis bien évidemment intéressé pour essayer de mieux comprendre cette industrie et les évolutions qui la traversent. Aussi parce que je pense que face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, l'histoire est toujours éclairante et qu'on voit souvent des phénomènes de répétition qui s'expriment différemment, bien sûr. Mais donc à ce titre-là, bien évidemment, j'ai regardé un peu quelles étaient les origines du soutien-gorge et l'histoire de la lingerie.
Est-ce que vous vous inspirez parfois des collections passées ou des modèles vintage ?
Oui, bien sûr. Ça fait partie de la boîte à outils, disons, avec laquelle on travaille, surtout dans au sein d'une maison comme Chantel, dont on fêtera les 150 ans d'existence, on va dire. En tout cas, si on remonte aux prémices de l'histoire de ce groupe. Donc, bien évidemment, il est toujours intéressant et on le fait de regarder ce qui a pu être développé par le passé. D'autant que l'histoire de Chantel est là. Je pense que ça nous est bien spécifique. Elle est marquée par un certain nombre de ruptures et d'innovations qui, en leur temps, ont participé à des évolutions fortes dans cette industrie. Donc, c'est des choses auxquelles on revient régulièrement. Oui.
Vous avez des archives dans la maison ?
On a bien évidemment des archives dans la maison. On a des soutiens-gorge ou des lignes de soutiens-gorge que l'on continue aujourd'hui de produire et de vendre et qui enregistrent au compteur plus de quelques décennies. Donc, il y a une forme de longévité, en tout cas dans la lingerie, je pense qu'on le retrouve aussi dans la mode, mais c'est particulièrement vrai dans la lingerie sur certaines typologies de produits. Voilà, on continue de vendre une ligne aujourd'hui qui s'appelle Fête, qui je pense a bientôt 50 ans d'existence, que Laetitia Casta portait récemment au Petit Quotidien, me semble-t-il. Donc ça fait partie des, voilà, tous ces trésors-là, on les a, on les préserve, on les a regardés, on les connaît bien.
Alors plutôt que de libération de la femme, Kemaïs Ben Lagdar, vous le disiez, avec la disparition du corset, on peut parler d'un assouplissement de la ligne, parce qu'on voit que la femme n'est pas complètement libérée des diktats qui pèsent sur elle, comme le suggère cette publicité de 1936 pour un soutien-gorge, qui promet de raffermir la poitrine grâce aux ondes électromagnétiques.
Madame, vous qui êtes jeune et qui vous inquiétez déjà de votre ligne. Madame, vous dont la maturité angoisse votre souci de plaire, sachez que le self-tonic est une découverte scientifique pour raffermir les seins dont les fibres sont relâchées. Toute personne soucieuse de son galbe doit porter préventivement le soutien-gorge self-tonic. Vous serez émerveillé du résultat obtenu par ces ondes électromagnétiques. L'expérience nous a valu de nombreuses attestations.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Kemaïs Ben Lagdar, on cherche plus de confort, certes, la lingerie se perfectionne, mais elle sert aussi des objectifs de conformité à des standards de beauté. C'est comme ça qu'il y a ces ondes électromagnétiques, les push-ups, les balconnets, etc.
Effectivement. Effectivement, d'autant en plus qu'au sortir de la guerre, on a la figure de la pin-up qui a ses seins pointus, sa taille extrêmement fine et donc du coup ses hanches complètement développées. C'est toujours très compliqué pour moi de dire que la mode émancipe forcément un petit peu. Mais en attendant, oui, elle est aussi très normative, elle est très coercitive et le dessous féminin, je trouve que c'est assez parlant pour ça. Justement, enfin, l'arrivée, le retour à une mode presque Second Empire au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec les couturiers comme Balmain, comme Dior, comme Fat, etc., etc., qui réinstaure une espèce de carcan très très important. Je peux pas penser une seule seconde que ce soit confortable ou que ce soit libérateur, quoi.
Libérateur peut-être pas. C'est vrai qu'il y a la jolie madame de Pierre Balmain, Christian Dior et son new look, et en fait on revient à une forme de féminité exacerbée.
Complètement exacerbée, c'est l'idée de la femme fleur du 19e siècle. La femme à l'époque est un sapin de Noël. Et plus elle est décorée, plus son mari est riche.
Voilà, comme au 19e siècle.
Exactement, c'est le même principe.
Et on va l'entendre, en 1952, les actualités françaises se font l'écho d'un nouveau soutien-gorge qui se gonfle à l'aide d'une paille.
C'est une autre forme de panache féminin que la haute couture va présenter cette saison. Le sein est à la mode et se portera plus encore. Gonflée au chalumeau, cette nouvelle forme de soutien-gorge à volume compensé permettra à chacune d'avoir à volonté les avantages qui conviennent à sa toilette. Entrée avec un buste de robe de sport, telle belle visiteuse en sortira tout à l'heure avec un buste de robe du soir. L'air de Paris.
Le sein est à la mode. C'est génial, ça donne l'idée que c'est pas toujours le cas, qu'on peut peut-être les enlever. Alors, c'est peut-être dans les années 50 que le soutien-gorge devient un véritable objet de séduction avec une forme caractéristique de cette époque, qui est le soutien-gorge obus dont on parlait, Kemaïs Ben Ladar, avec des bonnet pointu. Est-ce que ça accompagne cette exacerbation de la féminité dont vous parliez ?
Ah bah oui, complètement. Et ça accompagne aussi, comment dire, une hypersexualisation aussi de cette féminité. Mais c'est surtout aussi que ça se voit à l'écran. Et en fait, ça se voit à Hollywood et ça se voit sur des grandes stars de cinéma. On peut penser notamment, à Marilyn Monroe, ne serait-ce qu'elle, quoi. Ça devient vraiment une représentation qu'on va véhiculer de façon extrêmement importante via le soft power américain, via Hollywood. Et donc, du coup, ça va se diffuser de façon mondiale, quoi.
Massive. C'est vrai qu'il y a évidemment Marilyn Monroe, il y a Jan Russell, Jane Mansfield, Lana Turner, ces femmes qu'on appelle des sweater girls.
Ouais.
Parce qu'en fait, elles portent des petits pulls moulants, mais c'est surtout le soutien-gorge qu'on voit.
Effectivement. Et ça, paradoxalement, c'est ça qui est drôle, c'est que le soutien-gorge est invisible, mais on le distingue quand même, quoi. Et bon, là, c'est vraiment l'idée de cacher ces seins que je ne saurais voir, mais que j'ai quand même envie de voir, quoi.
Mais il y a une grosse hypocrisie en plus à l'époque, parce que il me semble que les décolletés sont plus ou moins interdits à l'écran, non ? C'est
effectivement,
ça
ouais. Une espèce de puritanisme aussi complètement bourgeois, mais qui, un peu hypocrite, quoi.
Renaud Cambusa, le boulet de bras, ce soutien-gorge conique, il est aussi le résultat du développement d'une technique de couture circulaire qui lui donne sa forme. Est-ce que les évolutions dans la lingerie, c'est aussi ce qui fait changer les comportements des consommatrices ?
Oui, bien sûr. Et donc, quand on regarde un peu, notamment sur la deuxième moitié du XXe siècle, l'évolution des techniques et des innovations en fait dans l'univers de la lingerie. Effectivement, chaque nouvelle tendance et phase est souvent portée par, ou en tout cas au cœur, on retrouve fréquemment une innovation textile ou en termes de construction forte. C'est par exemple, en l'occurrence chez Chantel en 1972, le lancement du premier soutien-gorge moulé. La ligne s'appelle alors Défi, donc sans couture, et qui là aussi se fait le reflet de l'envie de ce que la société traverse et de ce qu'on retrouve de plus de confort en même temps de plus de maintien. Donc là aussi on retrouve les contradictions qui traversent cette industrie et qui traversent la mode de manière plus générale. Donc bien évidemment, et plus récemment et notamment ces dernières années dans l'univers de la lingerie et en particulier chez Chantel, on a beaucoup travaillé sur ces sujets d'innovation et elles ont fortement accompagné un certain nombre de tendances à l'œuvre dans la société, de plus de confort, de plus de bien-être au quotidien, plus d'émancipation. Alors, reste à savoir si le terme est adapté ou pas. Mais oui, bien évidemment.
C'est-à-dire que les fabricants de lingerie sont à l'écoute quand même de ce qui se passe dans la société et éventuellement des revendications. Alors le terme est un peu fort, mais des demandes en tout cas des
bien usagères. Bien sûr. Les fabricants de lingerie sont à l'écoute de ce qui se joue dans la société et dans le monde auquel ils participent. Alors, ils sont parfois en réaction et parfois en anticipation, on va dire. Mais oui, bien sûr, comme la plupart des acteurs dans l'univers de la mode au sens large, et la lingerie n'y fait pas exception.
Et alors, avant le sans couture, au milieu du XXe siècle, l'arrivée de nouvelles fibres va modifier la donne.
Beauté et indiscrétion, Marlies Löwenbach.
Depuis 10 ans, une petite révolution s'est produite dans la mode des sous-vêtements féminins. Ces modèles très nouveaux ont été présentés à Paris par une ancienne maison hollandaise qui travaille depuis 60 ans avec la France et qui s'occupait à ses débuts de la confection de crinolines pour dames. Aujourd'hui, la crinoline a cédé la place à des soutiens-gorge et des gaines, ici en lycra, fibre très élastique, combinée souvent avec du nylon, nylon satin ou autres tissus modernes. Parce que ces fibres se laissent parfaitement imprimer et se prêtent à des coloris pour tous les goûts, on trouve maintenant une mode de dessous féminin, plus variée, moins austère, beaucoup plus attirante.
C'était un extrait d'un magazine féminin de 1964. L'arrivée du lycra, du nylon, etc., ça change beaucoup de choses dans la lingerie aussi, Renaud Cambusa ?
Oui, tout à fait. Des matières plus extensibles, plus élastiques, qui est un sujet travaillé depuis le début du siècle, en vérité. Mais bien évidemment, ce type d'innovation sur les fibres change drastiquement la donne. Et encore une fois, accompagne une société en recherche de davantage de confort. Le confort reste quand même une donnée, alors qui a été plus ou moins mise en avant, on va dire, mais qui s'est quand même fortement développée tout au long de la deuxième moitié du siècle, et puis particulièrement au XXIe siècle, en tout cas ces dernières années. Donc oui, plus d'extensibilité, plus de confort, et à ce titre, accompagner effectivement, d'émancipation, même si moi aussi j'aime pas beaucoup le terme.
Alors pourtant, à la fin des années 60, il se produit un renversement de valeur. Le soutien-gorge n'est plus vu comme un libérateur, mais comme un symbole d'oppression.
Elle devait déposer dans certaines boîtes à ordures tous les objets symboles de leur esclavage, soutien-gorge, bigoudis, parfums et ustensiles de cuisine.
On voit que le soutien-gorge est cité en premier. En 1968, des féministes américaines, membres du Women's Liberation Movement, protestent contre l'élection de Miss America. Elles jettent leur soutien-gorge à la poubelle. Et une journaliste va comparer ce geste aux garçons de leur génération qui brûlent leur carte de conscription pour protester contre la guerre. Alors si les féministes n'ont jamais brûlé de soutien-gorge ce jour-là, l'image est restée. Kemaïs Ben Lagdar, qu'est-ce que les féministes reprochent au soutien-gorge à ce moment-là ?
Eh bien d'être le symbole de leur servitude, quoi. Et c'est ça qui est trop drôle, c'est que du coup ça change la perception en fonction des époques, quoi. Il y avait aussi les talons qui étaient à proscrire, le maquillage, etc. Et donc c'est la seconde vague de féminisme qui refuse une certaine forme de féminité normative, on dirait. Et effectivement le sous-vêtement est aussi dans sa capacité à maintenir, mais surtout à recréer un corps. Parce que forcément, lorsqu'on porte un soutien-gorge, la poitrine est soutenue, donc elle n'est pas naturellement positionnée. Eh bien, c'est ça précisément qui est attaqué.
C'est-à-dire qu'il y a une injonction aussi au galbe, au sein parfait.
Exactement, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. À la jeunesse, au sein ferme, au sein maintenu, pas au sein en gants de toilette, voilà.
Et donc, les féministes, ils voient... un regard masculin à poser sur leur corps.
Effectivement.
Et les fabricants de soutien-gorge ont bien compris l'enjeu de confort autour de cet objet. Beaucoup vont faire de cette notion de confort leur premier argument de vente.
Certains jours, on se demande si les armatures ne sont pas fabriquées par des forgerons. Ouf ! Playtex vient d'inventer un soutien-gorge à armature confortable. Si confortable qu'on dirait qu'il n'y a plus d'armature du tout. Il va bien ? Il maintient en souplesse parce qu'il est élastique partout. Ouf ! Playtex Armature, le nouveau soutien-gorge à armature confortable.
Actuellement, 5 francs de réduction.
Je pense que la réduction n'est plus valable, hélas. Renaud Cambusa, le confort, c'est important, mais même à cette époque-là, les considérations esthétiques sont très importantes aussi.
Oui, bien évidemment. Là aussi, je pense que dans la lingerie comme dans la mode, elles font intrinsèquement partie de la proposition. Je pense qu'on part du principe que on est vu, qu'on le veuille ou non, et que par conséquent, quand bien même il y a une recherche, une demande, un travail autour du confort, effectivement, la capacité à apporter en plus de ce confort, dans certains cas, parce qu'encore une fois, on pourra en discuter plus en détail, mais une notion de d'esthétique et derrière, qu'on le veuille ou non, une forme de désirabilité. Alors, est-ce qu'elle est plutôt soumise à la validation du regard masculin ou davantage saisie comme un outil d'expression de soi ? Ça aussi, ça varie selon les époques. Mais bien évidemment, les deux fonctionnent ensemble et particulièrement dans l'univers publicitaire où il s'agit de donner envie Et donc, quand bien même la promesse se voudrait très axée sur le confort, elle est représentée et annoncée d'une manière qui doit effectivement déclencher l'achat.
Alors, on arrive aux années 80. Le soutien-gorge revient sur le devant de la scène à ce moment-là. Il avait un petit peu plus disparu dans les années 70, avec un artisan qui est Jean-Paul Gaultier, qui est Maïs Ben Lagdar.
Oui, et ces fameux obus madonesques. Et c'est assez intéressant, ça. Bah justement, c'est le dessous, dessus, dessus, dessous. Et cet enfant terrible de la mode, comme on aime bien le qualifier, qui va se servir alors de la contre-culture, mais aussi de la pop culture pour élaborer en fait un vestiaire un peu hybride en quelque sorte et se servir du coup de cette grande star qu'est Madonna pour lui faire porter un corset, mais un corset robe. Et avec ces fameux obus, enfin ces seins coniques qui ne sont pas inventés par Jean-Paul Gaultier. Enfin, des représentations de ces seins coniques sont visibles, par exemple, sur le continent africain, dans l'art bambara, etc., des symboles de fécondité, de maternité, etc.
En tout cas, il y a une féminité revendiquée aussi.
Exactement.
Parallèlement dans les dessous.
Ce qui voilà, est un c'est peu, ça qui est intéressant.
Qui est intéressant.
Effectivement.
Et la lingerie va jouer de plus en plus sur ces codes de la sensualité.
Pour voir des seins comme ça,
soutien-gorge qui est fait comme ça.
Un soutien-gorge digne qui maintient parfaitement les seins dans la transparence sexy du tulle. Il a une armature très douce.
Et pour des seins comme ça.
Ou comme ça.
Ou comme ça.
Un dîme léger en kiana, un autre maintien en voile et aussi un autre préformé en satin. Dîme, une gamme de vrais soutiens-gorge de 30 à 36 francs.
Le sexe fait vendre, Kemaïs Ben Lagdar, c'est la grande époque du porno chic de Tom Ford chez Gucci. La marque Wonderbra va frapper fort avec une campagne incarnée par Eva Herzigova en 94. C'est une révolution, le push-up, à ce moment-là ?
Bah, pas vraiment, puisque en fait, le push-up, on en voit déjà dans les années 50, c'est quand même assez... Enfin, je veux dire, les seins sont maintenus, mais ils sont aussi remontés en quelque sorte. Là, en l'occurrence, on est passé dans un autre contexte historique. C'est le moment de la financiarisation de la mode, c'est le moment de la constitution des grands groupes, c'est le moment aussi d'une starification sans précédent des grands directeurs artistiques. On est vraiment dans un moment de la fin du 20e siècle, pardon, et le début de l'époque contemporaine, vraiment très très contemporaine. Et je pense que c'est plus ça qui est analysé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et surtout, en fait, l'arrivée d'un Tom Ford qui va ériger le porno chic à la mode et qui développe toute cette esthétique autour, justement, des dessous, autour d'un corps complètement révélé, d'une culture du viol complètement assumée aussi. On va tailler les poils pubiens de ces mannequins en G parce que c'est Gucci, évidemment. Des strings pour hommes, des strings pour femmes avec le logo juste au-dessus du sillon interfécier. Enfin bon, bref, c'est assez intéressant de constater en fait que ça évolue à ce niveau-là dans un contexte post-moderne, enfin comme on le qualifie, quoi.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun tabou. Cette campagne, elle choque parce que le push-up, il existe déjà, mais on va le montrer.
Exactement.
Et dans les rues des villes.
Exactement.
Et apparemment, il a provoqué pas mal d'accidents de la route. En tout cas, c'est la légende qui accompagne. Parce que c'était une campagne où on voyait cette top modèle Eva Herzigova posée dans son push-up avec des slogans comme « Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit les yeux ». Et des choses comme ça. Hello Boys aussi, qui a beaucoup choqué à cette époque-là. Un an plus tard, en 1995, a lieu le premier défilé Victoria's Secret. Il sera diffusé en ligne à partir de 1999. En 2001, il est diffusé à la télé avec 12 millions de téléspectateurs, avec des mannequins au corps de rêve. C'est une image, ça, qui a beaucoup marqué la lingerie, Renaud Cambusa.
Oui, et qui dont Victoria's Secret a eu beaucoup de mal à se défaire. Et je pense qu'ils sont d'ailleurs... Ils ont cherché à y revenir. Donc c'est difficile pour ces marques et des marques comme celle-ci. Et ça a été difficile ces dernières années pour elles de trouver leur nouvelle vision parce que en effet, elles se sont massivement développées sur des codes d'hypersexualisation très installés par leur puissance et par leur succès. Elles ont participé à façonner une sorte d'imaginaire collectif qui garde la dent dure, y compris aujourd'hui, et pour qui du coup désormais, face aux tendances actuelles et aux injonctions actuelles, il est très difficile de trouver le point d'équilibre entre cette ADN initiale dont un certain nombre, et il faut pas l'oublier, je pense, de femmes, de clientes aujourd'hui continuent de se réclamer. Et en même temps, de nouvelles attentes, de nouvelles esthétiques, de nouvelles injonctions. Donc c'est un exercice. Voilà, ça a provoqué leur succès, et c'est peut-être aussi aujourd'hui l'une des raisons de leurs difficultés.
Alors les mannequins de Victoria's Secret sont appelés des anges, et c'est très difficile d'intégrer ce casting des défilés. En tout cas, c'était le cas. C'était des femmes qui devaient se plier à un certain nombre de normes esthétiques extrêmement précises, extrêmement contraignante, et c'est ça qui a été décrié aujourd'hui.
Oui, alors les fameuses VS Angels dont on a beaucoup parlé, qui ont bercé en l'occurrence mon enfance, sont aujourd'hui bien évidemment questionnées pour deux raisons. L'une qu'on a évoquée, donc l'hypersexualisation des corps, et l'autre en effet qui est la morphologie de ces corps, désormais jugés comme irréels et inaccessibles, et donc la combinaison des deux comme quelque chose d'extrêmement délétère, surtout quand il est diffusé à grande échelle auprès de la planète entière, ce qui est le cas d'une marque comme Victoria's Secret.
Et des jeunes filles, parce que vous le disiez, beaucoup de femmes s'en réclament encore, mais parce qu'on, quand on a grandi avec ces codes, c'est difficile de s'en détacher.
Oui, tout à fait. Alors c'est une des spécificités, je trouve, bien évidemment on la retrouve dans la mode de manière plus large, mais peut-être qui est particulièrement présente dans la lingerie, c'est qu'il me semble que c'est un produit qui est très culturel, d'abord, et ensuite très générationnel. Et en effet, ce qu'on a observé, notamment quand les codes ont commencé à bouger ces dernières années dans une société post-MeToo, donc voilà, on va dire ces 6, 7, 8 dernières années, c'est que effectivement, y compris chez des populations en demande et en recherche de propositions plus diverses et plus inclusives, appliquées à l'univers de la lingerie, c'était finalement un exercice c'est un peu plus difficile à pratiquer pour elles parce que elles ont grandi et elles ont été bercées par ces codes-là et qui font désormais partie prenante de leur espace mental.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Alors 6, 7, 8 ans, c'est à peu près le temps que vous avez passé chez Chantel, Renaud Cambusa, c'est le moment où vous êtes arrivé dans ce milieu de la lingerie qui vous a attiré aussi pour cette dimension sociétale et culturelle. Est-ce que vous trouviez que l'offre était trop stéréotypée quand vous avez commencé ?
Oui, bien sûr. J'ai rejoint le groupe Chantel en 2017, quelques mois en fait avant la première vague MeToo, et alors que je découvrais cette industrie, les constats que nous avions posés collectivement portaient sur quatre grands points d'observation. Le premier, en effet, omniprésence des stéréotypes, et puis pour la plupart très hétéronormés. Le deuxième, omniprésence et omnipuissance du regard masculin, ce fameux male gaze qu'on a déjà un peu évoqué, et par ce biais perpétuation d'un certain nombre de schémas patriarcaux dominants.
Dans la publicité, dans les produits, dans les deux ?
Oui, beaucoup dans les normes esthétiques, en effet, et dans la façon dont la lingerie et donc le corps étaient représentés, dans l'expérience, dans la façon dont ces produits étaient mis en scène, en magasin, proposés, effectivement. Alors dans les produits, ça se retrouve peut-être un peu moins sur une partie, en effet, de l'offre qui était très orientée, même si encore une fois, selon les marchés, ça peut être variable, mais très orientée sur un axe séduction. C'est c'était d'ailleurs le troisième point d'observation que je voulais partager. Objectification, bien sûr, et sexualisation du corps féminin et d'un certain type de corps féminin en particulier. Et puis, dernier point dont on a beaucoup parlé, alors dans la lingerie comme dans la mode, encore une fois, qui est le sujet d'invisibilisation d'un certain nombre de féminités et de communautés. Donc ça, c'est les quatre grands points qui, en 2017, à mon sens, étaient particulièrement présents dans la lingerie. Et effectivement, une des raisons qui m'a intéressé, enfin pour rejoindre cet univers, était de d'essayer d'ouvrir de nouvelles voies et puis de proposer de nouveaux chemins pour faire évoluer cette industrie et d'essayer de faire en sorte qu'elle soit davantage le reflet des aspirations à l'œuvre.
Alors, fabriquer des soutiens-gorge, vous l'avez dit, ça veut dire aussi avoir une responsabilité dans la façon dont les femmes sont représentées et dont elles perçoivent leur corps. Vous parlez d'invisibilisation et de communautés non représentées. À quoi vous faites référence ?
Notion de genre, notion de carnation, notion de génération. Donc on était quand même sur l'affirmation d'un stéréotype, parce que je pense qu'on peut vraiment parler de stéréotype dans ce cas-là, qui était celui des VS Angels. Donc à savoir, dans la grande majorité quand même, des profils caucasiens, peau claire, 1m80, taille 36 au maximum.
Hétérosexualité aussi ?
Oui, bien sûr. Encore une fois, quand on regarde, alors même si il faudrait faire preuve d'un peu de nuance, et que particulièrement aux États-Unis, c'est là aussi le paradoxe, c'est que c'est la terre ou le territoire sur lequel s'affirme un certain nombre de standards qui vont guider la société de consommation et se déployer à l'échelle internationale sur l'ensemble des marchés. Mais c'est aussi là où on observe en général les prémices de ce que j'appellerais des phénomènes de résistance, même si le terme peut paraître un peu fort, et des contre-propositions pour essayer de faire porter d'autres voix, en fait. Et donc, même à l'époque, il y a quelques années, effectivement, on voyait émerger aux États-Unis des jeunes marques beaucoup plus petites, mais dont l'objectif était d'essayer d'offrir des alternatives aux femmes afin qu'elles se sentent davantage respectée, représentée, comprise et écoutée.
C'est vrai qu'on a vu émerger plein de petites marques comme ça, plutôt dans le monde anglo-saxon, comme vous le disiez, avec une imagerie très éloignée des codes de la lingerie traditionnelle, c'est-à-dire des corps non épilés, par exemple, des modèles qui ne sont pas des mannequins professionnels, qui n'ont pas des corps parfaits, des types de corps très différents. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Comment ça a émergé, tout ça ? Ça s'est passé via les réseaux sociaux, parce que ces petites marques ont pu se présenter comme elles le voulaient ?
Oui, je pense que ça a participé à, encore une fois, donc les prémices étaient là. Là, on parle, il faudrait s'entendre sur les termes, mais de la quatrième vague féministe, et je pense que voilà, elle est venue avec un certain nombre d'évolutions, et la lingerie a été particulièrement traversée, et c'est bien normal, par ces questions, avec l'affirmation de MeToo et l'émergence d'une société post-MeToo, telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Et donc, effectivement, ces contre-propositions que vous évoquez, elles se sont particulièrement affirmées dans cette société post-MeToo. Elles ont pris de l'ampleur et en effet, je pense que l'envie, c'était de remettre au centre de l'échiquier sur une industrie qui s'adresse d'abord et avant tout aux femmes ou aux féminités, de remettre au cœur de la proposition ces féminités en fait. Et donc, à ce titre-là, plus de normalité, plus de représentation de ce que peut être la vraie vie entre guillemets, et essayer de sortir des stéréotypes qu'on a évoqués précédemment.
Alors Renaud Cambuzet, il se trouve que vous êtes un homme. Est-ce que ça pose pas de problème de repenser le soutien-gorge justement quand on est un homme ? Et là, on est aussi avec deux hommes en train d'en parler. Il y a une petite ironie.
Ouais, bien sûr. C'est une question que je me suis beaucoup posée, que je continue de me poser, mais je pars du principe que sur ces sujets complexes sociétaux, me semble-t-il, on a bien évidemment besoin des femmes, mais je crois qu'on a aussi besoin des hommes. Et c'est la forme de légitimité que je trouve.
Ça doit être une réflexion collective. Quoi.
Je pense que c'est mieux et que ça lui donnera plus de poids et plus d'ampleur si elle est également portée par les hommes. Donc c'est le modeste rôle que j'ai essayé de m'attribuer, même si je pense qu'un des garde-fous, entre guillemets, parce que je suis bien évidemment conscient des biais qui peuvent être les miens sur les questions de genre, mais pas que, sur tous les points qu'on a évoqués, la façon dont on travaille se veut extrêmement collective et elle se nourrit de plein de types typologie d'acteurs, de collaborateurs, de partenaires avec lesquels on développe nos propositions pour faire en sorte qu'à la fin, ce soit pas juste mon regard et ma proposition, mais au contraire, quelque chose qui s'est collectivement construit.
Alors, on est passé à une vision moins ancrée dans la séduction et plus dans le confort et aussi plus dans l'affirmation de soi. C'est un peu ce dont on discutait avec ces marques anglo-saxonnes qui ont été émergées sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Donc le sujet de l'affirmation de soi. Enfin, quand j'entendais tout à l'heure, on évoquait les années 80 et c'est finalement l'émergence du power dressing. On l'a beaucoup exprimé comme tel. Et le cas de Chantal Thomas, qui pour l'anecdote est une marque qui a fait partie du groupe Chantel, donc marque que je connais bien et sur laquelle j'ai travaillé jusqu'en 2021 chez nous. Je pense que la lingerie a participé à et effectivement les années 80, même si on peut se questionner sur les points qu'on évoquait tout à l'heure, il y a quand même, c'est l'émergence de l'envie de faire de la lingerie un outil d'affirmation de soi. Alors, dans une dimension très extravagante, extravertie, hyper sexualisée, mais c'est quelque chose qui reste présent et qui s'affirme aujourd'hui, peut-être plus encore, ou de manière plus littérale, on va dire, sous différentes formes. Donc, il y a bien évidemment le confort. Mais il y a aussi un retour de la séduction, ce qu'on appelle les nouvelles séductions, qui reviennent. Et là aussi, c'est intéressant de voir que finalement, tous les 20 ans, les phénomènes reviennent avec à chaque fois une phase d'expansion, puis souvent une phase de contradiction derrière. Donc, on a évoqué le modèle de la pin-up et l'hypersexualisation qui allait avec dans les années 50, première moitié des années 60. 20 ans plus tard, les années 80, on a le phénomène du power dressing. 20 ans plus tard, on a le porno chic. Et puis, 20 ans plus tard, on a aujourd'hui de nouvelles propositions qui émergent. Donc voilà, ces cycles-là reviennent régulièrement. Simplement, ils s'expriment un peu différemment. Et puis, bien évidemment, les acteurs qui les nourrissent peuvent être différents et les propositions peuvent se manifester, sous un jour nouveau. Donc, pour revenir sur le sujet du soutien-gorge, oui, je pense que, un des points, je pense que ça a toujours été le cas, mais particulièrement mis en avant aujourd'hui, c'est le corps comme sujet politique. Je pense que ça, c'est une évidence. C'est peut-être davantage conscientisé aujourd'hui, en tout cas dans l'univers de la lingerie. Et finalement, la lingerie comme outil au service d'une forme de reconquête à travers ce corps et comme effectivement un accessoire d'expression de soi. Donc ça, c'est la dimension plus mode. Et puis d'affirmation de soi. Et là, effectivement, mais ça peut s'exprimer de différentes manières. Donc soit à travers l'affirmation de plus de confort, soit à travers l'abandon de son soutien-gorge. On l'a un peu évoqué tout à l'heure dans le cas de la fin des années 60. Le phénomène du no-bra est un sujet dont on a pas mal parlé là aussi au moment du confinement, soit à travers, au contraire, le retour d'une forme de séduction et d'hypersexualisation, mais cette fois-ci sous un angle beaucoup plus féminin, voire féministe.
C'est ça, je pense à des personnalités comme Rihanna, par exemple, qui a d'ailleurs lancé sa marque de lingerie. Là, on est dans une hypersexualisation, mais revendiquée avec la femme qui devient objet de cette sexualisation.
Tout à fait. Et effectivement, là, c'est une séduction qui n'est plus au service de la validation d'un regard extérieur, mais davantage proposée comme une forme de d'expression personnelle très affirmée et de reconquête de son corps et de son identité.
Oui, c'est ça. C'est le sujet, d'ailleurs, que je voulais dire, et pas objet. Hein. C'est vraiment l'inverse, en l'occurrence. Kemaïs Ben Lagdar, vous avez affaire à ce qu'on appelle des jeunes, puisque vous êtes professeur. Est-ce que vous sentez ce mouvement-là chez les jeunes générations, d'une vision de la lingerie un peu différente? Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle? Ou peut-être que vous évoquez pas ces sujets-là?
Mais si, on en a parlé. J'ai l'impression que c'est pas une question. Comment dire? Je leur ai demandé si elles avaient déjà porté des porte-jartelles. Et pas tellement parce que je suis un voyeur. Hein.
Dit comme c'était... ça, ça me fait
C'est pour ça que j'ai voulu évacuer tout de suite la charge. Non, c'était pas. En fait, c'était pour leur demander si elles avaient déjà fait l'expérience d'une femme qui en portait. Et parce que aujourd'hui, on porte des bas, des collants, enfin surtout des collants dim, donc sans couture, avec juste un élastique et il y a aucun problème. Un porte-jartel, des amis de mes parents qui en portaient il y a très très longtemps et qui m'expliquaient que c'est un calvaire, ce truc-là, apparemment. Et je voulais savoir, en fait, si elles avaient fait l'expérience de ce calvaire-là. Enfin, de ce calvaire, avec plein de guillemets, hein, je veux dire. Et il y en a certaines qui m'ont dit oui, et m'ont dit c'était trop drôle. Enfin, il y a Enfin, j'ai mis 20 minutes à mettre le premier, quoi. La première fois, j'y arrivais pas, je comprenais pas comment est-ce que ça se faisait. Et donc, je trouvais ça assez intéressant de voir, en fait, à quel point, oui, enfin, le confort, il est toujours là. Enfin, c'est toujours la même question, quoi. Enfin,
Il peut y avoir une recherche de ces objets de sexualisation, mais par choix, du coup, pas par imposition des mouvements, oui, de la société. Mais il peut y avoir aussi un rejet du soutien-gorge, et ça, c'est assez nouveau. Vous l'évoquiez, Renaud Cambusa, le mouvement No Bras, pas de soutien-gorge. Alors, selon une enquête IFOP qui date de juillet 2020, 18% des moins de 25 ans déclarent ne jamais porter de soutien-gorge. C'était seulement 4% avant le confinement. Est-ce que le soutien-gorge est menacé de disparition, Renaud Cambusa?
Je ne crois pas. Et je pense qu'il continuera de se réinventer sous différentes formes. Il y a aussi, on évoquait tout à l'heure l'aspect générationnel. Il y a un double sujet. Et dans le cas particulièrement de marques au positionnement plutôt premium comme les nôtres, il y a un sujet de budget, de pouvoir d'achat. Et puis il y a un sujet morphologique, donc lié à l'aspect générationnel. Pour reprendre la statistique que vous évoquiez, on est sur, alors même si effectivement les chiffres sont en progression, on est sur des individus de moins de 25 ans, où bien évidemment la place de la lingerie à cet âge-là occupe une place moins importante pour différentes raisons. On pourra peut-être les creuser après. Et on observe dans les chiffres souvent que l'intérêt porté sur cette catégorie, à l'exception de bien évidemment chez certaines qui se passionneraient pour le produit et cette industrie, ça existe bien sûr, cet intérêt il est grandissant avec les années. Parce qu'en fait, il y a des notions de, notamment quand dans les grandes poitrines, il y a bien évidemment des sujets, même s'il n'a jamais été démontré. D'ailleurs, il n'y a pas d'études pertinentes. On l'a aussi évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire le soutien-gorge qui aurait des vertus médicales. Ça reste un sujet à prouver. Ceci étant, en tout cas, il n'y a pas de consensus sur ce point-là. Ceci étant, en effet, des recherches de maintien, de confort en avançant en âge sont des choses qu'on voit émerger. Donc le no-bras chez les plus de 25 ans, par exemple, les chiffres a priori restent assez marginaux. En revanche, je pense pas que le soutien-gorge, en tout cas à court moyen terme, soit amené à disparaître. Par contre, qu'il soit amené à se réinventer, comme ça a été le cas, bien sûr, et à essayer de continuer d'accompagner la société et les mouvements qui la traversent. Pour revenir sur le point qu'on évoquait d'avant, et la question des étudiants, par exemple, et leurs réponses, je pense qu'on est désormais, même si ça reste un point de préoccupation important, le confort est un acquis. Et donc, notamment chez les nouvelles générations, j'aurais tendance à dire, parce qu'on le voit émerger, et notamment dans les nouvelles marques. La lingerie est un marché assez dynamique. Un certain nombre de nouvelles marques se lancent chaque année, et elles sont souvent intéressées par le rétro, point que je trouve assez fascinant à creuser, et par les nouvelles formes de séduction. Et sans doute parce que désormais le confort est un acquis, et que donc ce qui intéresse, c'est d'aller explorer des champs autour. Et assez vite, on tombe dans des questions de style, et donc dans des questions de sexualisation, parce qu'on touche à la question de l'intime, qui peut s'exprimer et se représenter fort heureusement de plein de manières différentes.
Je voulais juste rajouter un truc. Mes sœurs, par exemple, ont été des ferventes no-bras, par exemple. J'en avais marre de porter des soutiens-gorge. Mes étudiants portent de plus en plus de corsets. Des corsets, en fait, qui viennent positionner sur leurs vêtements. J'en vois de plus en plus chaque année.
Des corsets qui n'ont plus grand chose à voir avec le corset du 19e siècle.
C'est un accessoire de mode, quoi. C'est quelque chose, qui se voit, et surtout, en fait, qui vient affiner en quelque sorte la silhouette. On fait bouffer une chemise dessus, etc. Et c'est trop drôle parce qu'ils me disent, mais c'est pas du tout confortable, mais je trouve ça très très beau.
Et ces deux mouvements qui s'observent, qui sont très intéressants, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté cette revendication pour plus de confort, le no-bras, etc., en même temps des retours de corsets, ou ce qu'on appelle au sens large le shapewear, c'est-à-dire ce qui va former le corps sous les vêtements, avec le succès d'une marque comme Skims, par exemple, développée par Kim Kardashian. Est-ce que c'est aussi l'un des avenirs de la lingerie, ce côté shapewear qui continue de former le corps, en tout cas de créer une silhouette un peu artificielle. Je vous pose la question à tous les deux, Renaud Cambusa et Maïs Ben Lagdar.
C'est une tendance, alors qu'on qui a bien évidemment dont on parle beaucoup parce qu'elle a été portée par le phénomène Skims, donc marque lancée entre autres parce qu'elle n'est pas seule derrière ce projet, mais Kim Kardashian et qui, par sa puissance médiatique, a bien évidemment réussi à en faire un phénomène de mode. Aujourd'hui, il est intéressant de regarder si Skims s'est lancé, ça a été sa verticale différenciante sur le shapewear. L'offre est beaucoup plus large que ça.
C'est-à-dire qu'ils font aussi du vêtement.
Ils font du vêtement. Ils viennent d'annoncer un partenariat avec Nike, dont on a beaucoup parlé. Ils ont habillé l'équipe olympique américaine. Ils font tout un tas de collabs avec telle ou telle marque, Dolce Gabbana récemment. Ils font des soutiens-gorge aussi désormais. Ils font bien évidemment de l'underwear. Enfin bref, ils font plein de choses. Mais en effet, ils se sont lancés là-dessus parce que je pense que ça a été identifié comme une opportunité de marché et que jusqu'à présent, le shapewear, donc ces produits gainants ou sculptants, restaient des produits serviciels, en général cachés au fond des rayons.
C'était ringard, on va dire.
Ouais, c'était exactement, c'était ringard et on considérait que ça s'adressait à une certaine typologie de clients. Donc ce que Skims a réussi à faire aussi dans l'époque actuelle, qui est davantage portée par quand même l'affirmation de son corps et ses notions de confort, c'est finalement démocratiser et rendre cette proposition shapewear plus cool, plus contemporaine et plus facile à revendiquer. Pour autant, donc, est-ce que c'est un étalon qui va désormais définir l'industrie de la lingerie? Je ne crois pas. Il n'empêche que c'est une tendance forte, importante, sur laquelle beaucoup de marques désormais s'expriment, mais voilà, ça reste une catégorie, me semble-t-il, parmi d'autres. Après, encore une fois, ce qui est intéressant, on en revient toujours aux mêmes contradictions, c'est-à-dire que d'un côté, on a une forme d'empouvoirment, d'affirmation de soi, et en même temps, on reste vu. Et donc, pour beaucoup, la possibilité de sculpter reste un sujet. Alors, la différence quand même, me semble-t-il, avec des produits comme Skims ou des produits de shape contemporains, avec quelque chose de sculptant et gainant, mais quand même beaucoup plus confortable et plus facile à porter. Donc on se retrouve avec ce point d'équilibre recherché entre deux injonctions contradictoires.
C'est ça, et ce sera le mot de la fin. On va terminer comme ça. C'est vrai qu'on revient finalement à une volonté de sculpter le corps tel que ça l'a été au 19e siècle, et la lingerie continue d'avoir cette ambition-là.
D'autant que Kim Kardashian a fait de son corps sa marque de fabrique, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir comment elle sculpte son propre corps. Et en le sculptant, elle capitalise sur cette sculpture pour le démocratiser dans la société. Enfin, elle avait pas encore lancé Skims, que la chirurgie esthétique qui allait dans ce sens-là était déjà très 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 développée. Je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de boucler la boucle de cette manière, en se disant que finalement. La silhouette du 19e siècle qui se gonfle, qui se dégonfle avec des artifices, des crinolines, des amplificateurs, des choses, se transforme à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure d'une surexposition d'images de corps absolument parfaits en une Kim Kardashian qui... Et je suis très très très... j'ai trouvé ça génial que vous rappeliez que effectivement Skims, c'est pas simplement que des culottes gainantes, quoi. C'est toute une marque très complexe, très...
complète.
Complète et avec plein de produits, quoi.
Mmh. Très riche, oui. Ouais. Très riche.
Merci à Kim Kardashian de remodeler les corps et de continuer à nous imposer des injonctions à la beauté. Merci à tous les deux, Kemaïs Ben Lagdar, Renaud Cambusa. Kemaïs, je rappelle que votre livre intitulé « L'appropriation culturelle » est disponible aux éditions Stock. Merci à Laurence Millet qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit qui ont aidé à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Meige et Ruben Carmazine. Aujourd'hui, à la technique, c'était Marie Le Peintre. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.